Question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
Continuez de répondre à la question sur canalm.visezvoix.com. D'ailleurs, ça commence à faire réagir un peu. Je sais que ça peut être provocant, là, cette idée de chercher à valoriser toujours cette inclusion, donc trouver les retombées économiques que peuvent avoir des investissements dans l'accessibilité. Mais c'est important de le faire, notamment l'ATUC, qui est responsable du transport, pardon, l'Association du transport urbain du Québec, a commandé en 2016 une enquête qui a encore très peu d'équivalent au Québec, c'est-à-dire sur cette valorisation des services pour les personnes en situation de handicap, comme le transport adapté. Donc, j'imagine que vous sourcillez, là, quand je dis valorisation, ça veut dire combien ça rapporte tel investissement. Et évidemment, on parle d'inclusion. Donc, quand on parle d'inclusion, d'habitude, on parle davantage de reconnaissance des droits. Mais aujourd'hui, on va se poser la question dans toute sa dimension et même économique. Avec qui on fait ça? Que des gens qui adorent parler d'économie et d'inclusion, c'est-à-dire Francis Fortier, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonjour, Francis.
Bonjour.
Avec nous aussi au téléphone, Marc-André Varin, qui est directeur général de l'Association du transport urbain du Québec, l'ATUC. Bonjour, M. Varin.
Bonjour.
Et rappelons que vous avez commandé une étude. Vous ne faites pas nécessairement une évaluation économique du transport urbain, mais vous l'avez faite comme démarche en 2016.
Tout à fait, oui. Une étude qui a été réalisée en 2015 et qui a été rendue publique l'an dernier, en 2017, avec toutes sortes de données intéressantes.
On en reparlera d'ailleurs en deuxième partie de cette table ronde. Et Serge Poulin, directeur du regroupement des usagers du transport adapté de l'île de Montréal. Bonjour, Serge Poulin.
Ben, salutations, Benoît, ainsi qu'à vos auditeurs et auditrices.
Ah, bon, ben, t'aimes nos questions, c'est ce que je comprends.
Ben, tout à fait. Aucun problème avec ça.
Bon, mais alors, je suis content qu'on ait l'occasion de parler à Serge Poulin. Ça faisait un moment. Je vous interpellerai en premier, Serge. Bon, d'abord, vous êtes une personne aveugle, mais surtout, vous êtes directeur général du RUTA de Montréal, qui est un regroupement d'usagers du transport adapté. Et la question que j'aurais envie...
Et accessible de l'île de Montréal.
Et
on ne fait pas que transport adapté, on fait transport régulier aussi.
Bon, c'est vrai, on l'oublie souvent. Donc, la mise en accessibilité du transport régulier, c'est important, vous en occupez. Je vous poserais même la question d'emblée, Serge Poulin. C'est quoi l'inclusion dont on parle souvent? Comment vous la définissez, vous, comme usager, comme représentant de bon nombre d'usagers?
Bien, pour nous, l'inclusion, c'est de pouvoir utiliser les programmes, les bâtiments, les services, en fait, tout ce qui est utilisé par l'ensemble de la population, de pouvoir l'utiliser et d'en vivre l'expérience d'une façon, de manière équivalente.
Équivalente,
et,
oui.
Et au même moment. En fait, ce qu'on dit, c'est ça. C'est que dans l'inclusion, c'est de considérer que la personne aura toujours ses limitations, mais plus on diminue son handicap, c'est-à-dire ses obstacles sociaux, bien, mon Dieu, plus elle peut exercer son devoir et droit de citoyenneté à part entière. Souvent, ce que je dis, c'est on est des citoyens de loi, mais on n'est pas nécessairement des citoyens de fait, c'est-à-dire que dans les faits, ça ne se traduit pas toujours par l'accessibilité universelle et l'inclusion.
Bien sûr. Puis donc, nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est pas tout le monde connaît les droits. Bon, c'est une autre histoire.
Ça, c'est une autre histoire.
Mais j'ajouterais, Serge Poulin, est-ce que ça coûte de fait de l'argent d'être en situation de handicap afin d'éliminer justement ces obstacles?
Souvent, ce que je te dirais, Benoît, là-dessus, c'est qu'on est porté à penser que transport adapté, ça coûte cher. De donner des aides techniques aux personnes, ça coûte cher. On est toujours porté à le voir comme ça, alors que moi, en tout cas, je suis tellement heureux de l'initiative de l'ATUC à ce sujet-là, parce que moi, j'ai toujours dit ça, et tout le milieu des personnes en situation de handicap dit ça. On est sûr que c'est rentable économiquement, mais on n'était pas capable trop de savoir comment, mais on a des preuves. Alors, de permettre à des gens d'être des citoyens à part entière, ça a tellement d'impact positif sur la vie. Tant au niveau du revenu, si tu veux qu'on le traite en revenu, j'ai pas de problème avec ça. Si les personnes handicapées, par exemple, ont le transport adapté, qui peuvent travailler, ils injectent de l'argent dans l'économie, ils payent leurs impôts. Puis là, je te parle pas de tout l'isolement qui est brisé, puis de la santé mentale qui s'emporte beaucoup mieux, de ces personnes qu'on peut enlever des CHSLD parce que, justement, ils sont en forme socialement, puis ils peuvent travailler puis contribuer comme tout le monde. Moi, je suis tellement content de cette recherche-là.
Bon. Donc, c'était attendu, ça? Parce qu'il y avait une recherche équivalente au niveau canadien qui avait déjà été publiée, mais il n'y avait rien au niveau québécois. D'ailleurs, moi, ça m'étonne, j'ai pas pensé, on en reparlera plus tard, gardons ça en tête, mais l'enquête canadienne parle d'un plus grand impact économique que l'enquête québécoise. Mais on le met en suspens, on en reparlera de manière plus spécifique, M. Varin, si vous permettez, plus tard. Dernière question, avant de peut-être passer la parole à Francis Fortier, qui s'est intéressé aussi à l'aspect de l'inclusion versus, disons, l'économie. Est-ce que le transport adapté, c'est un des services, ou la mise en accessibilité du transport régulier, c'est un des services les plus importants pour maintenir l'inclusion ou permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap, Serge Poulin?
Mais sans faire de jeu de mots, Benoît, mais le transport, c'est le moteur, en fait, de la vie.
Oui.
Si t'es pas capable de te transporter, tu peux pas faire babacho, tu peux pas aller à tes rendez-vous médicaux, tu peux pas aller travailler, tu peux pas... Tout y passe, tu peux pas te divertir. Alors, est-ce qui est plus important? Moi, je pense qu'ils sont tous importants, mais je pense que l'inclusion... en tout cas, c'est un, ben, comme je te dis, c'est comme le moteur, ben, c'est de pouvoir que la personne puisse se déplacer aisément et de manière sécuritaire.
Mm-hmm. Bon, et donc se déplacer de manière sécuritaire, vaquer à ses occupations, peu importe lesquelles, hein, pas seulement le travail, si je comprends bien, là.
Ah non, c'est à tous les niveaux. Aller jouer au bingo pour certaines personnes, là, si tu leur donnes pas ça, ça va peut-être jouer sur leur santé mentale, puis ils vont être obligés de se médicamenter. Ouais. J'en prends un comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Nous, je pense pas qu'on est en mesure d'évaluer le motif de transport, mais la personne a besoin de briser son isolement social. Mm-hmm. Alors, si elle se valorise par le travail, tant mieux pour elle. Si elle se valorise par le bingo, c'est aussi bon pour elle. Ce qu'on dit, c'est que toutes ces choses-là permettent à cette personne-là de vivre comme un citoyen puis de participer aux activités et travail qui lui plaisent autant que possible. Mmh. Et bon, d'être en mesure d'être épanoui, quoi.
L'épanouissement, l'émancipation, ça, c'est des beaux mots. Avec nous, Francis Fortier, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. On vous a convié parce que vous avez fait une étude récemment sur l'accès à la vie associative chez les personnes en situation de handicap. Donc, je ne sais pas si c'est une association de bingo, là, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'associations dans lesquelles les personnes en situation de handicap aimeraient s'impliquer. Rappelez-nous un peu, c'était quoi l'objet de votre étude, d'ailleurs, qui était publiée l'année dernière, en 2017?
Oui, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est d'essayer de voir à l'intérieur des différents groupes communautaires au Québec si les personnes en situation de handicap avaient la possibilité de participer pleinement à la vie associative. Pas simplement des organismes communautaires qui viennent en aide ou font des activités pour les personnes en situation de handicap, mais l'ensemble. Parce que, comme le disait mon collègue, c'est pas l'idée, en fait, de participer à la vie, c'est pas simplement d'aller travailler, c'est pas simplement d'aller au marché. Donc, même en 2009, la politique qui avait été mise de l'avant, la politique gouvernementale qui avait été faite, qui s'appelait « À part entière », visait justement cette dimension-là. On est 10 ans plus tard et je pense qu'il faut réfléchir où on est rendu dans cette dimension-là. Donc, ça faisait partie d'un processus de réfléchir s'il y avait vraiment un moyen d'augmenter la participation des personnes en situation de handicap.
C'est un des grands objectifs, comme vous le dites, là, des lois, mais aussi normalement des volontés très de base des personnes, là, que de participer, d'être
c'est de participer, parce que présentement, ce qu'on voit, il y a beaucoup plus d'accessibilité dans les organes, dans tout ce qui est les établissements gouvernementaux, et également dans les centres d'achat. Mais vivre socialement, participer à la vie...
C'est pas juste un centre d'achat,
je veux bien croire que la population vieillit, mais tu sais, il y a quelque chose, il faut mettre en place certains éléments. Mm-hmm. Et c'est ce que ressorti l'étude qu'on a faite. Mm-hmm. Et je pense que ce qui ressort, qui peut évidemment donner des pistes de réflexion, des pistes de solutions qui va au-delà de la dimension des organismes communautaires, c'est qu'on essaie de voir pourquoi les organismes communautaires ne pouvaient pas offrir certains accommodements.
Bien sûr.
Et on a déterminé qu'il y avait trois grandes raisons. La première raison, on s'en attendait, c'était un problème de financement. Les organismes communautaires... Donc, c'est un secret de polychinelle.
Ils ne sont pas adoptés depuis quelques années.
C'est ça. Voilà. Donc, sujet qu'on peut laisser pour un autre notable monde, voilà. Peut-être. Mais le deuxième élément, en fait, c'était que il n'y avait pas de ressources dans certaines régions. Ouais. Donc, même s'il y avait les ressources monétaires, il n'y avait pas les ressources en tant que telles, donc pas d'accès à un transport adapté ou pour faire la traduction, donc plein de choses comme ça. Donc, Premier élément. Et, ben, le deuxième élément. Et le dernier qui, en fait, est un reflet de notre société qui, pour moi, représente vraiment, disons, le processus de production culturelle du handicap. C'est-à-dire que on a une vision des personnes handicapées plutôt qu'une vision de la situation de handicap.
Oui,
et
bien sûr.
On oublie qu'il pourrait avoir potentiellement une personne en situation de handicap qui viendrait à une activité.
Mm-hmm.
Et ça, c'est pratiquement le tiers des accommodements qui n'ont pas été offerts à cause de ça.
Pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là. Parce qu'on ne l'a pas anticipé, tout simplement.
On ne l'a juste pas anticipé.
Mm-hmm. Puis, quand on regarde, de toute façon, les types d'accommodements, quand c'est l'accessibilité à l'édifice, on s'entend que c'est permanent. Si on n'y a pas pensé, c'est vraiment long avant qu'on puisse régler la situation. Là.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Donc, il y a cet élément-là. Puis pour moi, ça représente vraiment un reflet de société qu'il faut justement réfléchir et mm-hmm. qu'il faut mettre en place, qui pour moi, justement, la continuité de la politique gouvernementale de 2009, qui, ben, même pas la continuité, mais la mise en place qu'il faut accélérer.
Pour rester dans le thème, malgré tout, Francis Fortier, comment ça se calcule sur la valeur de l'inclusion? Est-ce qu'on aurait une manière d'y arriver, à votre avis?
En fait, là, je dois dire que j'ai fait un sourire en coin parce que je considère que oui, il faut le faire, mais de l'autre côté, il y a un certain danger de jouer le jeu purement économique.
Mm-hmm.
On peut essayer de se valoriser par la dimension du travail, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de créer un argumentaire pour des gens qui réfléchissent la société dans un rapport de productivisme.
Mm-hmm.
Donc, on voit qu'il y a des personnes qui pourraient être plus productives et on essaie de les convaincre que tel dollar va rapporter à la société, et non pas à la société, va rapporter à l'économie. Et
ouais.
Donc, là, il y a une différence à faire. Mm-hmm. Et j'ai un certain malaise à essayer de calculer et... un malaise, et en même temps, je trouve que c'est un super beau défi. C'est de mon autre côté, mon côté plus économiste ou statisticien qui parle. Il y a un super beau défi à le faire. Donc, mais il faut, je pense, prendre en considération que c'est un argumentaire parmi plein d'autres, le fait d'essayer de chiffrer la dimension de l'inclusion. Donc, c'est simplement une parcelle de qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir faire avancer la cause de l'accessibilité et en fait, de toute la logique d'universalisme de notre société, de notre arrangement urbain, de notre arrangement aussi au niveau des communications Internet. Donc, c'est très, très large tout ce qu'on peut faire et ça ne repose pas simplement sur un argument économique, à mon avis.
Mais il y a quand même un défi intéressant à relever que d'essayer de le faire, mais il ne faut pas oublier les droits quand même. On se retrouve dans quelques instants musicaux avec Marc-André Varin qui, lui, a demandé une étude pour bien jauger la valorisation du transport adapté au Québec.
She wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen, but you can do something.
Yeah.
question de la semaine. Est-ce que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? D'après vous, combien d'argent rapporte à la société chaque dollar investi dans l'accessibilité?
On en parle à table avec Serge Poulin, directeur général du RUTA Montréal, et aussi Francis Fortier de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. En plus, on a convié Marc-André Varin, qui est directeur général de l'Association du transport urbain du Québec, l'ATUC, qui a commandé en 2016 une étude pour évaluer l'impact économique du transport adapté. Monsieur Varin, c'est quoi? Quels ont été vos constats avec cette étude-là qui prend 2013 comme appui et qui a été publiée en 2017?
Oui, en effet, c'est à partir de données de 2013. Oui. Ces données économiques-là, naturellement, il faut se baser sur ce qui est disponible au moment où l'étude est réalisée.
Bien sûr.
Comme on le mentionnait en première partie, ça a été une tentative de comptabiliser, de valoriser, de quantifier plus précisément le transport adapté au Québec. Et on va dire tout simplement dans un contexte de relation avec les gens qui viennent financer les différents programmes qui nous permettent de mettre en œuvre les services de mobilité. Alors, pour valoriser ce qu'on a fait essentiellement, c'est l'étude tente de chiffrer tout ça.
Oui.
Dans un premier temps, de chiffrer les revenus des personnes handicapées donc ça leur permet de travailler, quels sont les revenus qui sont générés à partir de ça pour les gens qui sont en situation de handicap. D'améliorer également, on a tenté de chiffrer l'amélioration de l'état de la santé également.
Ah oui.
Ça peut être chiffré, ça aussi.
Donc, c'est un coût social là, qu'on essaie d'évaluer, des coûts de santé de moins.
D'opportunité. Mm-hmm. Exactement.
OK.
Les gens se déplacent également pour s'éduquer, pour aller à l'université, pour aller à l'école. Alors, l'augmentation du niveau de scolarité que cela permet a une valeur également à l'économie québécoise. Et ce qui est plus difficile à chiffrer également, c'est la réduction de l'isolement social.
Oui.
Et donc, on peut le regarder directement comme ça. Ça veut dire quoi pour les personnes en situation de handicap? Mais au-delà de tout ça, en utilisant les modèles économiques qui existent, c'est de déterminer un impact économique. C'est quoi la valeur ajoutée au PIB québécois? Alors, cet exercice-là a également été fait dans le cadre de l'étude.
Oui, bien sûr, mais ceci dit, on le sait à quel point la seule mesure du PIB est contestée, ça dit à peu près rien sur le mieux-être des personnes. Sauf qu'au-delà de ça, ce que vous relevez, c'est qu'essentiellement de ces 271 millions de dollars de valeur en 2013, la majorité, dans le fond, c'est lié à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Oui, en effet. Mm. Mais je ne minimiserai pas non plus la valeur ajoutée à l'économie québécoise également. Vous l'avez sûrement vu dans l'étude.
Oui.
Je ferai alentour de tout près de 100 millions de dollars également.
Oui.
Ces gens contribuent à l'économie québécoise et ça a une valeur importante et je pense qu'il faut en tenir compte également.
Puis il y a aussi toutes sortes d'emplois.
C'est très quantifié, c'est très chiffré, là,
oui.
Et ça va bien au-delà de ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a mentionné M. Fortier.
Mm-hmm.
Mais c'est un exercice intéressant pour pouvoir confronter le gouvernement du Québec et dire, voilà, on a besoin de financement et voilà le retour sur votre investissement. Dans le
bien
fond.
Sûr. Ben oui, mais on comprend bien aussi que c'est dans le but de faire valoir l'augmentation de l'investissement dans le transport adapté qui plafonne.
Tout à fait.
C'est
tout
ça.
À fait.
Puis là, vous
le dites... Il y a une légère bonification qui a été faite l'an dernier par le ministre Lessard.
Oui.
Une légère bonification.
Mais après plusieurs années sans augmentation.
Oui. Oui, ça a été plafonné depuis longtemps, oui. Tout à fait.
Bon, parce que, qu'on le veuille ou non, là, puis c'est votre étude qui nous l'apprend, rappelons d'ailleurs que c'est la firme Apsis qui l'a menée pour votre compte. Les demandes projetées en déplacement de transport adapté, ça veut dire le nombre de déplacements là, qui risque d'advenir dans les prochaines années. C'est immense, en fait. Vous indiquez que d'ici 2036, qui n'est pas si loin, ça va chiffrer à 8,5 millions de plus. Attendez, oui, c'est ça. Non, c'est 3,2 millions de déplacements de plus qu'en 2013, et donc au total 8,5 millions. Ça fait,
exact. 2013, ça fait du transport sur nos routes. 5,6 millions de déplacements, exact.
OK. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin aussi de justifier qu'il y a un impact positif au niveau de l'économie, parce que ça veut dire que ça va prendre beaucoup là, de minivans ou de transports adaptés ou de minibus pour déplacer ces gens-là partout au Québec.
Exactement. On se rappelle aussi qu'à peu près 20% du transport se font en minibus, mais il y en a beaucoup qui se font en taxi adapté également et en taxi régulier aussi. Mais non seulement ça, mais on parlait d'accessibilité universelle tout à l'heure aussi avec les modes de transport réguliers qui existent. Ça aussi, ça prend des investissements qui sont requis pour à la fois pour les équipements puis pour les installations, pour les adapter. Alors, il y a ça aussi là-dedans.
Et au-delà de ça, je vous poserai une dernière question sur votre étude. Est-ce que l'impact économique positif va demeurer? Parce que, on le disait, la plus grosse partie de l'impact économique dont vous parlez, c'est lié au fait que les gens travaillent. Mais on est dans un contexte où la population vieillit. Pour eux, leur sortie, ça va vouloir dire peut-être à faire des loisirs, s'impliquer dans leur communauté, etc. Est-ce que ça va devenir aussi intéressant rendu là pour le gouvernement?
Ben, je pense que oui. Je pense que ça partira pas entièrement rapidement. C'est sûr que ce retour sur l'investissement va peut-être être moindre dans quelques années avec le vieillissement de la population, mais il va être là quand même.
Bon. OK. Alors, on s'entend là-dessus. Serge Poulin, est-ce que vous avez envie de réagir à ce rapport-là, à ce que proposé M. Varin?
Ben en fait, moi, comme je disais en début, je félicite ce groupe-là d'avoir fait ça. Je trouve ça absolument génial. Et aussi, ce qu'on oublie peut-être de parler, quand on parle de rejet de l'économie, parce que aussi, je pensais à ce que M. Fortier disait, oui, c'est un jeu dangereux, il a tout à fait raison. Cependant, je pense qu'on avait besoin de le prouver, puis là, on est en mesure de... Ce qu'on oublie de parler, par exemple, ce que peut-être M. Varin, parce qu'évidemment, son étude est tellement grosse qu'on faut en laisser des parties, mais il y a tout le revenu injecté par les chauffeurs, soit de taxi ou de minibus, dont on n'a pas parlé là.
Ah oui.
Pour eux, c'est une somme d'emplois qui vont... un revenu qui va être réinjecté dans l'économie.
Oui.
Je vais dire, la vérité, c'est que je suis pas sûr que les compagnies de taxi seraient aussi en bonne condition s'il n'y avait pas de transport adapté. Je regarde, en tout cas, moi, je demeure sur la Rive-Sud, les gars me disent, si on n'avait pas de transport, là, il y en a bien dans nous autres qui n'auraient même plus de permis.
Oui, bien, c'est sûr que c'est devenu une nouvelle opportunité, surtout quand on voit une baisse là, de la demande du taxi du traditionnel. Vous le dites dans votre enquête, c'est 1230 emplois indirects, puis il y a aussi des emplois directs importants en première ligne. Bon, alors, on le sent très bien.
1800 personnes, 1800. Probablement, au total.
Au total, exact. OK. Bon, ça fait travailler du monde. Pensez-vous, et là je m'adresse à tout le monde, y compris Francis Fortier, pensez-vous que davantage d'inclusion serait profitable économiquement? Là? Si on se disait, c'est pas juste ce qui existe en ce moment, là, mais si on en mettait plus, ça serait-tu profitable économiquement? Peut-être Francis Fortier.
Oui, en fait, très rapidement, je pense que oui, puis pour répondre en partie à la question est-ce que à long terme ça va être viable, je pense que en partie par M. Poulin ça a été avancé, c'est l'idée de la logique que les personnes vont dépenser. Peu importe, cette logique-là, c'est pas simplement la dimension d'aller travailler, c'est la dimension aussi de dépenser. Et je pense que l'idée aussi, la dimension de l'école, de l'accessibilité à l'école, je pense qu'il va falloir investir beaucoup plus large. Et je sais que présentement, le Conseil supérieur de l'éducation travaille sur une école, la logique d'une école inclusive.
Ah oui.
Et je pense qu'il faudrait commencer.
C'est à surveiller.
Ça risque de sortir au courant de l'année. Donc, il y a peut-être quelque chose.
On refait une émission là-dessus. On vous réinvitera. Merci beaucoup, Francis Fortier, chercheur à l'IRIS. Merci, Serge Poulin, directeur du RUTA Montréal. Merci beaucoup, Serge.
Ben, c'est un plaisir, Benoît. Je suis toujours disponible pour...
Parfait. Marc-André Varin de la TUC. Merci à tout le monde.